Bienvenue à l'Église de Sentier. On espère que vous êtes en forme. J'espère que vous n'êtes pas malade. Plusieurs malades cette semaine. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur l'Internet. Eh bien, vous savez, si on veut, un des outils qu'on a qui est disponible quand on veut étudier la Bible, les Écritures saintes, c'est ce qui s'appelle, c'est une grande expression, là, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça, la théologie systématique. Alors, ça fait très gros, très scientifique, mais tout ce que ça veut dire, finalement, c'est prendre un des thèmes de la Bible. Vous prenez un thème et vous parcourez les Écritures pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce thème-là. Maintenant, on estime qu'il y a environ 135 thèmes importants dans les Écritures, toutes sortes de thèmes. Ça peut être sur le Dieu, connaître Dieu, les attributs de Dieu. Ça peut être sur Jésus-Christ, la Trinité, tout ça, l'Église, plusieurs thèmes. Et nous, la semaine dernière, on a commencé à nous arrêter sur un des thèmes, un de ces 135 thèmes importants dans les Écritures, et c'est la voix de Dieu. Et on a regardé que Dieu voulait et a communiqué à chacun d'entre nous de différentes manières, et on a vu qu'il y avait trois voix de Dieu, que Dieu, d'ailleurs, je les ai ici sur la diapo, on a vu la semaine dernière que Dieu communiquait à travers sa parole qui est inspirée. On a regardé cette expression-là, que toute écriture est inspirée, nous dit les Écritures. Et le mot « inspiré » veut dire « souffler hors de la bouche de Dieu ». Et puis, donc, Dieu parle à travers les Écritures saintes. Il parle à travers son Esprit Saint aussi, à ses enfants. Et il parle à travers des sages conseils des membres de son Église autour de nous, des gens qui ont passé du temps, qui ont de la maturité dans les Écritures. Alors, parfois, on veut connaître la volonté de Dieu. Et puis, tu regardes, tu parles à ses frères ou sœurs, et ça nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu parfois. Mais là, on a un problème, c'est que, et on l'a soulevé la semaine dernière, c'est qu'il y a de l'interférence dans la ligne de communication avec Dieu. On ne l'échappe pas, il y a comme de la statique, on a parfois, on est confus à comprendre quelle est la volonté de Dieu, on cherche à comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Et parfois, on dirait qu'il y a de l'interférence sur la ligne. On a la difficulté à bien saisir exactement ce qu'il veut pour notre vie. Et on n'y échappe pas. C'est là, il va toujours y avoir un peu d'interférence dans cette communication entre Dieu et nous. D'ailleurs, on va s'arrêter puis on va regarder ça d'ailleurs aujourd'hui. Quelles sont les causes? Il y a trois causes pour lesquelles on va toujours avoir un petit peu de statique sur la ligne entre Dieu et nous. Et juste avant, on va regarder un exemple typique de cela avec la vie de Paul. Paul va amorcer un voyage missionnaire avec Barnabas, mais avant que Paul, l'apôtre Paul, soit un apôtre et qu'il soit un chrétien, Paul était, il y avait un autre nom à l'époque, il s'appelait Saul, et c'était un persécuteur d'Église. C'était un juif qui voulait absolument rien savoir avec le christianisme. Aucun intérêt, d'ailleurs même il était très agressif à l'endroit des chrétiens. Il avait de l'autorité même qu'on lui avait donnée, et puis il mettait en prison les chrétiens parce qu'il ne croyait pas que Jésus était le Messie et il ne voulait absolument pas que le christianisme prenne de l'expansion. Et il était vraiment en fusil, surtout qu'après 6 mois environ, il y a eu plus de 60 à 70 000 personnes qui se sont converties depuis la naissance de l'Église dans Acte 2. Des milliers de personnes sont venues au Seigneur et abandonnaient le judaïsme et tout ça. Et ça ne faisait vraiment pas l'affaire des pharisiens, des rabbins et de l'apôtre Paul. C'était un des docteurs de la loi, l'apôtre Paul, et il voulait, mais ce n'était pas un apôtre dans le temps. Et lui va même tuer, mettre à mort certains chrétiens pour essayer de stopper l'avancement de l'Église, la croissance de l'Église, et essayer de freiner ça. Et un jour, il a même l'autorité, on a même une lettre qui lui donne tout à fait l'autorité à mettre des gens en prison, même les tuer. Et il part pour arrêter justement les chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? En plein milieu du chemin, il va y avoir une intervention de Dieu, Jésus-Christ qui va lui apparaître. Il reçoit cette vision de Jésus. Et Jésus commence à lui parler. Ça, c'est après là, que Jésus a été ressuscité. Là. Alors, c'est vraiment un miracle parce que Jésus a été crucifié. Et là, Paul le voit, voit cette vision-là et Jésus lui parle. Il dit, « Pourquoi tu me persécutes? » En d'autres mots, le mal que tu fais aux chrétiens, c'est à moi que tu le fais. Et là, Paul est saisi, tout ça, et il va se convertir à ce moment-là. Il va devenir un enfant de Dieu. Et ce qui va arriver, c'est qu'il s'est converti, mais les chrétiens, on a misère à le croire, mais les chrétiens ont vraiment peur de lui. Il mettait des gens à mort. Là. Alors, mais il y a une personne qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas, c'était un gars qui c'était la compassion sur deux pattes. Vraiment plein de tendresse. Et c'est lui qui va le prendre sous son aile. Il va vraiment l'entourer, prendre soin de lui, s'occuper de lui. Et c'est même lui qui va aller le défendre et le présenter aux chrétiens. Il va rassurer les chrétiens. Alors, il s'est porté garant vraiment pour Paul et va prendre soin de lui. Alors là, Paul va grandir. Et il est évident là, que cet homme-là est doué, plein bourré de talents. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, là, il grandit, et puis ses talents, ses dons sont de plus en plus évidents. Et là, l'Église, un jour, va prier, et le Saint-Esprit va dire à l'Église, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul, et envoyez-les comme témoins pour qu'ils puissent justement répandre l'Évangile. » Et là, l'Église, ça fait l'affaire à l'Église et tout ça, ils voient une belle... quelque chose de beau qui se passe là. Alors, l'Église va mandater ses deux frères, Barnabas et Paul, d'aller dans leur premier voyage missionnaire. Et ils vont amener Jean-Marc avec eux. Jean-Marc, un autre homme de Dieu, on le connaîtra plus tard sous le nom de Marc. C'est lui qui a écrit l'Évangile que nous avons, l'Évangile de Marc. Mais à ce moment-là, alors qu'on prend cette histoire, cet épisode de l'histoire qu'on veut lire ensemble, Marc, qui s'appelle Jean-Marc, est plus jeune. Alors là, il s'en va avec le voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, ils vont répandre l'Évangile ensemble. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que quand tu pars avec l'apôtre Paul, la vie n'est pas facile. Paul prêche, mon ami, prêche l'Évangile et tout ça, il s'est fait mettre en prison, il s'est fait battre. Là, moi, j'ai ce Jean-Marc-là, ce jeune homme-là qui était avec eux autres, puis tu sais, il suit, là, puis mon ami, c'est vraiment pas évident. Il va faire à peu près trois villes avec Paul et Barnabas. Puis à un moment donné, il dit, « Hey, les gars, non, écoute, moi, c'est comme... » Là, c'est... Hey, c'est comme... je pensais pas que c'était comme ça, là, la vie missionnaire. Et là, il va les abandonner. Il dit, « Moi, je me retourne chez nous. » Il y a toutes sortes de théories pour ça. Il y a vraiment, là, les gens se demandent, c'est peut-être qu'il y avait quelqu'un de malade chez eux et tout ça. Mais je ne pense pas. Je pense à cause de l'histoire qui va suivre plus loin. Je pense qu'il y avait l'impression qu'il y avait tellement de pression, tout ça, il disait, écoute, moi, c'est fini, moi, je retourne chez nous, et puis je pourrais bien le comprendre aussi. On ne sait pas vraiment quelle est la raison, mais il abandonne, il laisse faire, il s'en retourne chez eux. That's it for me, là. Fait qu'il s'en va. Donc là, eux autres, Barnabas et Paul continuent leur voyage missionnaire et tout ça, puis ça, bon, ils ont des défis, mais Dieu fait des belles choses, les églises sont implantées et tout ça. Des gens qui viennent au Seigneur. Le temps va passer. Le temps passe. Puis là, à un moment donné, Paul a la conviction dans son cœur que c'est le temps pour lui de retourner, revisiter ces églises-là pour savoir comment ça va, ces églises-là. Est-ce que les chrétiens ont continué, ont persévéré? Est-ce qu'il y a de la fausse doctrine? C'est peut-être ingéré dans l'église, inséré dans l'église. On va aller prendre soin de ces églises-là. Donc, ils sont convaincus, Barnabas aussi, convaincus que c'est le temps de faire un deuxième voyage missionnaire pour aller retourner pour voir l'état dans lequel ces églises-là se retrouvaient. Donc, trois voix de Dieu, on a dit quoi? La parole de Dieu, le Saint-Esprit, puis les sages conseils autour de toi de gens, d'hommes de Dieu. Alors, les trois voies sont claires, la Bible est bien claire, Jésus avait dit, vous allez faire des disciples, alors ça c'est parfait, il n'y a pas d'interférence là, pas de statique, c'est clair, Dieu veut qu'on aille faire ce deuxième voyage missionnaire-là. Deuxièmement, c'est, on a une conviction dans le cœur que c'est rendu le temps de faire ça, puis troisièmement, tout le monde est uni autour de nous autres, on s'en va pour ce deuxième voyage missionnaire. D'accord? Pas de problème. Barnabas dit, « Hey Paul, on emmène Jean-Marc avec nous autres. » C'est son cousin, c'est le cousin de Barnabas. Barnabas dit, « Écoute, on va emmener Jean-Marc avec nous autres. » Et voilà mon ami. Trois voix étaient bien claires. Il y a quelque chose qui va se passer. Là. Alors là, on va aller voir ça, ce qui se passe dans Actes. D'accord? Alors moi, je vous invite à venir me rejoindre dans Actes 15. On va aller voir ce qui se passe. Très étonnant ce qui va se produire. Acte 15, verset 36. Allez pas trop vite dans la lecture. On va aller ensemble, on va suivre ça ensemble, d'accord? Alors ça, il faut savoir là, qu'il s'agit de trois hommes de Dieu. Là. On parle de l'apôtre Paul. Paul, c'est le docteur, cet homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, un gars décisif, visionnaire, fonceur, déterminé, puis tu as Barnabas, un homme de Dieu rempli de l'Esprit. Les deux sont remplis de l'Esprit, puis Barnabas, c'est le monsieur compassion, plein de délicatesse. Les deux hommes de Dieu qui ont fait le premier voyage ensemble, ils en ont vu de toutes les couleurs ensemble dans le premier voyage missionnaire. Donc là, on va commencer à faire la lecture à partir du verset 36. Bon, ça dit ceci. « Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Pas de problème. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Maintenant, ça, c'est tout à fait typique de Barnabas. Barnabas, c'est Monsieur Compassion. En d'autres mots, Paul, Marc, là, il a grandi, il a changé, il a pris de la maturité. Viens, on va aller le chercher, on va l'amener avec nous autres. OK? Pas de trouble jusque-là. Regardez bien ce qui se passe, verset 38. « Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. » En d'autres mots, Paul dit, je veux rien savoir. Tu comprends, c'est ton cousin, tu l'aimes beaucoup et tout ça, mais je ne veux rien savoir. Je ne veux pas emmener Jean-Marc, il nous a abandonnés, il nous a laissé tomber dans le premier voyage missionnaire, il trouvait ça trop difficile, trop tough, je ne veux pas. Barnabas commence à s'obstiner avec lui, bien voyons donc, Paul ne prend pas ça de même, ça n'a pas de bon sens, on va l'emmener, il a bien changé, c'est plus de même, je te le dis, là. Je le sais, l'autre jour, on t'a dit, il nous a invités pour un barbecue, puis ça, on a passé du temps ensemble, puis c'est plus le même cas du tout. Je te le dis, il a vraiment changé, là. Paul dit, je ne veux rien savoir. Hey, regardez bien, là. Pas mal fort, là. Verset 39. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui, embarqua pour l'île de Chypre. Paul, lui, de son côté, choisit silence et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Ils s'en vont. En d'autres mots, les deux, division, mes amis. Division, là. Hey, c'est des hommes de Dieu, là. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Pas capable de s'entendre. C'est une division d'église. Hey, écoute, il y en avait vu d'autres, les gars, là. Ils se sont fait mettre en prison, ils se sont fait battre, ils ont reçu des fouettes dans le dos et tout ça, puis ils ont toujours été collés ensemble, toujours unis. Là, ils se divisent pour savoir qui va faire partie de l'équipe missionnaire. Pensez-y, là, mais ça n'a pas de bon sens. Et puis là, regardez ce que le texte dit, là. Un désaccord. Désaccord fut si profond. Maintenant, désaccord. Tu sais, désaccord, moi et ma femme, des fois, on a des désaccords. Moi, ça fait 40 ans que je suis marié, puis ça fait 40 ans qu'on a des désaccords sur la température chez nous. Non, moi, je vous dis, c'est jamais, jamais assez chaud. Jamais. Ma femme, c'est toujours, toujours trop chaud. Et hey, puis même, là, c'est rendu, hey, c'est incroyable. Là. On est dans la voiture, on voyage ensemble dans la voiture, tu sais. Puis là, on est là, puis je conduis, tu sais. Puis là, c'est rendu que moi, je monte le chauffage. Ma femme descend le chauffage. Et là, puis tu sais, elle fait des signes. Là. Il fait chaud, là. Et là, c'est rendu. Après 40 ans de mariage, des fois, tu développes des techniques. Là, j'attends qu'elle regarde dehors le paysage. Là, ma femme me regarde. Elle n'est pas folle. À un moment donné, j'ai envie de conduire et tout ça. À un moment donné, je regarde le cadran. Puis, si je commence à avoir froid, je regarde le cadran. Ah, mais laisse-nous au haut, elle va changer la température. Je ne l'avais pas vu, elle a changé en cachette. Hey, les deux, on attend que l'autre ne regarde pas. Hey, il fait beau là-bas, regardons ça, ils ont construit ça. Mais là, on ne parle pas de ça, là, ici. Là. On parle d'un désaccord, mon ami, c'est assez profond. Là. D'ailleurs, ça te dit bien, hein? Un désaccord tellement profond. Mais disons les vraies affaires, là. Ils se sont engueulés. Le mot dans l'original là, est très, très fort. Ils se sont littéralement engueulés. Ils sont chicanés à la grosse engueulade. Puis il n'y en est pas question, je veux absolument rien savoir. Tu compris? Je veux rien savoir. Imagine-toi, là, c'est des hommes de Dieu. Là. C'est les meilleurs hommes du Nouveau Testament. C'est de top, là. Tu peux pas avoir mieux que ça, là. Des gens, là, inspirés du Saint-Esprit, là. Mais là, ils se divisent. Les deux meilleures personnes du livre des Actes. Puis, ils vont se diviser sur le choix de qui devrait faire partie de l'équipe. Et est-ce que ça ne fait pas du bien de savoir ça? Que des gens de cette trempe-là, de cette qualité-là, ça va arriver qu'ils vont chicaner. Ça me fait tellement du bien de savoir ça. Deux hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, pas capables de s'entendre. Deux personnes campées sur leur position, puis tu ne me feras pas changer d'idée. Je ne veux rien savoir, je ne changerai pas d'idée. Moi, je suis convaincu qu'il ne devrait pas venir avec nous autres. Non, non, ne prends pas ça de même. Paul, t'es trop dur. T'es trop tough. Hey, voilà les deux meilleures personnes du livre des Actes qui se chicanent. Maintenant, quand il est question de connaître la volonté de Dieu, il est surprenant de voir des personnes de cette trempe-là, de cette qualité-là, comme Paul et Barnabas, confus et pas savoir exactement quelle est la volonté de Dieu, quelle direction à prendre. Parce qu'il y en a un qui se trompe, là. Il ne peut pas avoir des deux raisons. D'accord? Il y en a un, pourtant les deux sont remplis de l'esprit, là. Il y en a un des deux qui se trompe. Je pense que c'est probablement Paul. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsqu'il va écrire à Timothée, il va demander à Timothée, « Je veux que tu emmènes Marc avec toi. Emmène-moi là, j'en ai besoin. » Puis non seulement ça, on voit que Marc devient un homme, un géant de la foi lui aussi. Il va même écrire l'Évangile de Marc. Alors, cette chicane nous rappelle qu'il va toujours avoir de l'interférence sur la ligne avec Dieu. Il y a trois raisons pour ça. Ça ne sera jamais parfait jusqu'à temps qu'on n'entre pas dans l'éternité avec Jésus. En attendant, pendant qu'on est ici, il va toujours avoir un peu d'interférence. Trois raisons. Premièrement, on est des pécheurs. Ça reste qu'on est pécheurs. Et ça, on va toujours être pécheurs jusqu'à temps que le Seigneur revienne. C'est Kent Hughes qui disait ceci, parlant de la marche chrétienne. Il dit, les chrétiens marchent toujours en boitant. Le péché va causer de l'interférence sur la ligne, à un point tel que non seulement le péché va m'empêcher d'entendre une direction claire de Dieu et de comprendre la direction pour ma vie. Mais non seulement ça, là, quand je persiste dans le péché, parfois même ça met une distance avec Dieu et tout d'un coup, il y a comme un silence et mes prières même ne dépassent pas le plafond. Et c'est le point que Ésaïe va faire dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1, voici ce que le prophète Ésaïe va dire. Il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » C'est que Ésaïe est en train de répondre à une critique qu'il recevait du peuple d'Israël. Voyez-vous, juste le chapitre avant, tu vois, le peuple d'Israël, ils sont dans des gros besoins, ils ont des besoins sérieux, et là, ils commencent à prier, à jeûner, ils cherchent la face de Dieu, puis ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu, ils demandent à Dieu de les aider, d'intervenir pour les sauver des troubles dans lesquels ils se trouvent. Et là, tu sais comment c'est quand tu pries, puis là, tu n'as pas de réponse. Là, eux commencent à critiquer Dieu, puis commencent à dire, « Bien, c'est ça, Dieu n'est pas intéressé, puis de toute façon, il ne nous entend même pas. Il ne nous répondra pas, il ne nous entend même pas, Dieu. » C'est à ça que le prophète Ésaïe va répondre, au chapitre 59, verset 1. Il dit, « Non, il dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. » En d'autres mots, le problème n'est pas avec Dieu, là. Ça ne se trouve pas ici, le problème. Ça ne se trouve pas en haut, le problème. Le problème est ici. Il est là, là. C'est vous autres, c'est le péché là, que vous n'avez pas réglé. Voyez-vous, le peuple, là, d'ailleurs, c'est ça qu'il va dire plus loin. Il le dit d'ailleurs au verset 2, le verset qui suit. Il dit, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. » C'est les fautes qui traînent, que vous n'avez pas réglées. Effectivement, il y avait du péché dans le peuple d'Israël. Il laissait ça. Il ne réglait pas ça. C'était un peu comme les pharisiens du Nouveau Testament où ils priaient, ils jeûnaient. Il y avait comme une sorte de religion externe, mais ils ne réglaient pas leur cœur. Alors, voici ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, tu as une conviction dans ton cœur de régler un péché qui traîne dans ta vie. Et là, tu luttes avec ça, tu luttes avec ton péché, tu veux vraiment avoir la victoire, tu mènes la bataille, tu veux résister à la tentation, tu luttes. Et là, tu tombes. Tu te relèves, tu demandes pardon au Seigneur, tu continues, tu luttes, tu tombes. Une rechute, tu te relèves, tu continues. Puis avec le temps, tranquillement, ce qui va se passer, c'est que tu luttes avec de moins en moins de détermination pour avoir la victoire. Tu es fatigué, tu es tanné de lutter toujours avec la même chose, tu tombes, tu te décourages et tout ça. Et tranquillement, ce qui va arriver, c'est que tu luttes de moins en moins fort. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le péché puis tu vas le mettre dans une boîte à quelque part. et tu laisses ça là, caché dans une boîte. Puis toi, tu continues ta vie chrétienne. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la voix du Saint-Esprit, qui au début était bien claire, t'a montré, vois-tu, garde ça, il faut que tu règles ça dans ta vie. Avec le temps, ce qui va arriver, c'est que tu entends la voix de moins en moins forte. Si bien que tu entends juste un bruit de fond que tu ne veux pas entendre, pour éventuellement avoir un bruit silencieux. Tu ne l'entends même plus. Éteins. C'est pour ça que ça dit, hein, n'éteignez pas le Saint-Esprit, tu ne l'entends même plus. Et toi, ce que tu fais, tu mènes ta vie chrétienne ici comme si de rien n'était. Tu continues à mener ta vie chrétienne. Et là, tu commences à avoir des problèmes, tu commences à prier Dieu, tu cries à Dieu, tu invoques Dieu, tu veux son aide, et tu ne comprends pas, mais il me semble que tes prières ne dépassent pas le plafond. Il y a comme un blocage, c'est là, ça, c'est stoppé là, c'est arrêté là. Et toi, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir le péché de la petite boîte, pas vrai? Et ça, c'est l'une des causes. Le péché qui traîne dans notre vie. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, mais il me semble que je vais toujours avoir du péché dans ma vie. On est pécheur, mais on va toujours être pécheur jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Absolument. Tu as tout à fait raison. Voici la différence. Il y a une grosse différence. Il y a une grande différence entre lutter intentionnellement pour me sortir de mon péché et abandonner intentionnellement ma lutte contre le péché. Vois-tu? Grosse différence. Alors, le péché, c'est la première cause qui va faire de l'interférence dans ma relation avec Dieu. La deuxième raison qui va toujours avoir un peu d'interférence entre Dieu et nous, c'est notre humanité. Ça reste qu'on est humain. Alors, on ne pense pas comme Dieu. Ésaïe 55 le dit très bien. Ça dit, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. » Et verset 9 dit ceci, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. » Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. On ne comprendra pas pourquoi le Seigneur nous demande telle chose dans les Écritures. On ne comprendra pas pourquoi la volonté de Dieu à certains égards. Mais qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend l'obéissance. Ça prend l'obéissance même quand tu ne comprends pas parfaitement. Puis pourquoi Dieu te demande telle chose? Mais tu le fais. Tu veux obéir. Celui qui veut traiter Dieu d'égal à égal n'acceptera jamais l'obéissance. Il y aura toujours de la statique quand on va chercher à comprendre certaines parties de la parole de Dieu. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande ça. Bien, il faut obéir. Alors, le péché cause l'interférence, notre humanité également. Mais dernièrement, un combat spirituel. Il y a un combat spirituel autour de nous autres. Des fois, on peut être un peu plus conscient que non, mais il y a définitivement un combat spirituel autour de nous autres qui va mettre de l'interférence dans notre relation avec Dieu. Le diable veut nous décourager, nous ralentir. Il veut nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne et de devenir meilleur en meilleur. Il veut nous décourager. Il veut qu'on lance la serviette, qu'on abandonne. On peut voir avec le prophète Daniel. Tu regardes le prophète Daniel, un homme de Dieu. Là, oublions pas, c'est ce même Daniel là, qui a été mis dans la fosse aux lions. Un homme de Dieu, Daniel. Proche de Dieu. On va mettre en contraste deux prières, deux de ses prières. Première prière, Daniel va commencer et Daniel va demander à Dieu que Dieu puisse l'éclairer, aider à comprendre quand Dieu était pour accomplir les promesses de la délivrance d'Israël. Voyez-vous, à ce point-ci, ils sont en captivité à peu près à 1000 km au loin, à Babylone. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, était venu puis avait tout détruit à Jérusalem, les murs, la ville et tout ça. Et là, Daniel ne comprend pas, ils sont en captivité, c'est une captivité, l'exil qui va durer 70 ans. Daniel ne comprend pas, alors il fait une prière, il va ouvrir son cœur, il commence à demander à Dieu que Dieu puisse lui expliquer, l'aider à comprendre quand Dieu était pour réaliser les promesses qu'il avait faites à l'endroit de Jérusalem. Alors, regardez bien ce qui se passe. Daniel 9, 20. Il dit, « Je continuais à parler dans ma prière, d'accord, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. » D'accord? Et là, verset 21 dit ceci, « J'étais encore en train de prononcer ma prière. » Il n'a même pas fini sa prière. Là. Il n'a même pas dit « Amen » encore. Là. Il vient de commencer sa prière. ouvre la bouche. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ça c'est l'ange, Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. » En d'autres mots, je suis venu pour répondre à ta prière, venu pour exaucer ta prière. Il dit, « Dès que tu as commencé ta supplique ou ta prière, dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. J'ai reçu un texto. Dieu m'a envoyé un texto. Me dit ceci, et je suis venu pour te communiquer. Tout de suite, tu as ouvert la bouche. Dieu me dit, vas-y, exauce la prière. Va répondre. Il dit, je suis venu pour te communiquer, car tu es le bien-aimé de Dieu. Hey, ça, c'est pas super. Hey, dès que Daniel ouvre la bouche pour prier, l'ange reçoit un ordre de Dieu d'aller et répondre à sa prière. Tout de suite, sur le coup. Hey, ça, c'est le genre de prière qu'on aime. Hein, tout de suite, là. Tu sais, tu as des problèmes financiers. Là, tu dis, « Ah, Seigneur, hey, Seigneur, je viens de recevoir là, une facture d'Hydro-Québec. » Boum! Voici un chèque. Wow! Ça, c'est le genre de prière qu'on aime. « Ah, Seigneur, encore cette semaine, ma voiture, elle vient de faire défaut, elle vient de tomber en panne. Boum! Voici les clés de ta voiture neuve. » Ah, ça, c'est-tu merveilleux. Non, non, mais est-ce qu'on les aime pas, ces prières-là? Ça m'est déjà arrivé, vous aussi, hein? Je me rappelle, je vous ai déjà conté ça, on avait commencé dans le ministère, on faisait juste 6 000 $ par année, on n'avait quasiment pas d'argent, fait qu'à un moment donné, je suis devant ma porte de frigidaire, puis là, j'ouvre la porte de frigidaire, puis le souper, c'était quoi? Et juste 6 000 $ de revenus, c'était des enfants, tout. Il y avait juste des cocombes et des tomates pour souper. Fait que là, ce jour-là, j'avais le goût d'emmener ma femme au restaurant. On n'a pas d'argent. Je me suis mis à genoux, lui prier, lui dire, Seigneur, j'aimerais vraiment ça, Seigneur, ce soir, emmener ma femme au restaurant. Au nom de Jésus. Amen. Ding dong. Et je me rends à la porte, mon ami, j'ouvre la porte, il y avait quelqu'un avec de l'argent, il me dit, écoute, le Seigneur nous a mis à cœur de vous faire un don. Pas incroyable, ça? Qu'est-ce qu'on a fait ce soir-là? Saint-Hubert. Imagine-toi, non, mais pense-y, là. Dieu, ce soir-là, nous a donné du Saint-Hubert. C'est fort pareil, hein? Oui, mais écoute, ça vient de Dieu, cette affaire-là. C'est un don qui vient de Dieu. Elle sait qu'elle est. On les aime, ces prières-là? Hein? T'ouvre ta bouche, t'ouvre ton cœur, commence à prier, puis tu vas pouf! Exaucé. Amen. Amène-en d'autres. On aime ça, ces prières-là. Gloire à Dieu. Attendez, pas fini. Daniel va faire une autre prière. Là. Écoute, c'est le même Daniel, il n'a pas changé, c'est toujours aussi rempli d'esprit, un homme de Dieu, pas changé, toujours le même. Il va faire une deuxième prière. Là, on va aller voir sa deuxième prière, juste après. Daniel, encore, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il commence à prier, puis il demande à Dieu, il ouvre sa bouche. Et là, Daniel devait penser, tu sais, tout de suite, l'ange, hey, mon ami, tu vas ouvrir ma bouche, il va tout de suite venir, il va répondre, tu sais. Il commence à prier, puis il dit, Seigneur, il dit, j'aimerais ça vraiment que tu m'expliques, je veux comprendre. Tu fais des prophéties, puis tout ça, des promesses, tout ça, j'aimerais ça comprendre comment ça va arriver, puis tout ça. Amen. Il devait regarder, là, il devait voir, est-ce qu'il y a un ange qui s'en vient? Non, il continue, deuxième journée. Prie. Il commence à prier, deuxième journée. Troisième journée, quatrième journée, Dieu ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? Et Daniel est aussi consacré qu'avant, là, un homme de Dieu. Et 5, 6, 7, 21 jours, 3 semaines de jeûne et prière, il n'a pas lâché, il a continué après 3 semaines de prière, finalement. Finalement, alors, regardez bien ce qui se passe. Daniel, il dit, Daniel 10, 12, il dit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour, c'est le premier jour, il y a 21 jours, là, 3 semaines passées, là, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. » Il faut comprendre là, dans la perception hébraïque, entendre la prière veut dire que tu es exaucé. Là. Ça, quelque chose va se passer. Là. D'accord? Alors, dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais là, ça fait 21 jours, 3 semaines. Il explique pourquoi. Verset. Il va expliquer pourquoi ici. Mais le chef du royaume de Perse, c'est le diable, là. S'est opposé à moi durant 21 jours. Imagine-toi donc. Alors Michel, même l'archange Michel, est obligé d'intervenir pour aller l'aider. L'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Ah, écoutez bien ce qui se passe, là. Réalisez-vous ce qu'il est en train de dire, ce que l'ange est en train de dire. Normalement, nous, on ne voit pas ça, là. On ne voit pas tout ce combat spirituel. Mais Dieu décide d'envoyer son ange et d'ouvrir un rideau du ciel pour que tout d'un coup, Daniel puisse comprendre tout ce combat spirituel qui avait lieu là. Imagine-toi donc, là. Dieu avait dit, « Va exaucer Daniel, réponds à sa prière, vas-y. » Et l'ange part. Et en chemin, le diable arrête, intervient et mène un gros combat avec l'ange à un point tel qu'il a besoin de l'aide de l'archange à venir pour l'aider. Ils ont mené ce combat-là pendant 21 jours. Et non seulement ça, après 21 jours, il peut là, prendre la relève, il continue, il va voir Daniel pour lui dire que sa prière est exaucée, puis il va même lui dire un peu plus loin au verset 20, « Là, je dois repartir pour continuer à mener le combat avec le diable. » C'est même pas fini. En d'autres mots, la bénédiction que Daniel devait recevoir a été retardée à cause d'une intervention du diable. Voyez-vous? On a vraiment besoin de comprendre qu'il se déroule un combat spirituel. Parce qu'après 3 jours, 4 jours, ou 1 semaine, ou 2 semaines, tu as le goût d'arrêter de prier. Pas vrai? Mais il est en train de se livrer une chicane ici, là. Un combat. Une guerre spirituelle. Et on a besoin de continuer à prier, puis à ne pas se relâcher, puis à persévérer. Parce qu'on va avoir la victoire. La victoire, elle nous est garantie, n'est-ce pas? Dans l'éternité. Alors, la guerre est déjà gagnée. Mais il nous faut nous rappeler qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se dérouler. C'est Abraham Kuyper qui a écrit ceci. Il dit, « Si nous pouvions lever le rideau sur ce monde, de sorte que le monde spirituel qui l'influence devienne visible, nous verrions une lutte si intense, si convulsive, balayant tout sur son passage. En comparaison, la bataille la plus féroce sur terre semblerait n'être qu'un simple jeu. Non ici, mais là-haut, voilà où le vrai conflit fait rage. Notre lutte terrestre bourdonne au rythme de celui-là. » Alors, parfois, il va y avoir la statique sur la ligne. Parfois, c'est à cause de notre péché. On est pécheur. On reste pécheur. D'autres fois, c'est simplement parce que nous restons humains. On ne comprend pas tout à fait, 100% les voies de Dieu. On a la difficulté à comprendre. D'autres fois, c'est qu'il y a un combat spirituel qui se livre, qui fait tarder la bénédiction. Alors, quoi faire? Bien, on ne pourra jamais enlever toute l'interférence à 100%. Ce sera juste quand on sera dans l'éternité qu'il n'y en aurait plus. Mais en attendant, il y a certaines choses qu'on peut faire, pratiques, pour réduire l'interférence le plus possible. Premièrement, on réduit les interférences par l'obéissance et la repentance. Et il faut aller voir la boîte. Est-ce que j'ai laissé quelque chose dans la boîte, moi, là? Est-ce que du péché que j'ai laissé, là, qui traîne, que je n'ai pas réglé, que j'entends même plus, que ça ne me dérange même plus, c'est là dans ma vie, puis c'est la routine, je n'ai pas encore réglé ça? J'ai besoin de sortir de la boîte, moi, là, sortir s'il y a quelque chose qu'il y a dedans, là. Et s'il y a quelque chose dedans, qu'est-ce qu'on fait? On le confesse, on recommence à lutter, on déclare la guerre à ce péché-là, on veut l'attaquer pour s'en débarrasser. Et ça se peut qu'elle revienne, qu'elle refasse surface, on saute dessus, on l'attaque et on continue, on persévère. Parce que la Bible appelle ça le bon combat. Ça, c'est le bon combat. Et c'est ça que David va dire dans le psaume 66, ça dit ceci, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Deuxièmement, on a besoin de tisser des bonnes relations très solides et intimes avec les frères et sœurs de l'Assemblée. Pour ne pas mener ce combat spirituel tout seul, on a besoin les uns des autres, mes amis. On ne veut pas s'isoler. Tu ne t'isoles pas en guerre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te colles à d'autres, mon ami. Hein? Tu veux tenir à d'autres avec l'armée. Et c'est d'où la nécessité de s'inscrire dans les groupes connexion, dans les groupes maison, de ne pas rester tout seul, dans les groupes paradoxes avec les jeunes. Les groupes de dames, les hommes, parce que tu veux ensemble, on s'encourage mutuellement. Troisièmement, on se sert des armes spirituelles qui nous sont données dans Éphésiens 6. C'est ça que Daniel faisait, il priait. Alors qu'il se trouvait dans un territoire ennemi, à Babylone, il priait. Et il ne l'a pas lâché. Il a prié. Il ne faut pas oublier Hébreux 1,14 qui dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? » Tu n'es pas tout seul dans ce combat-là. Alors, aussitôt que Daniel a élevé la voix vers le ciel, Dieu a entendu et l'aide s'en venait. Alors, on ne veut pas abandonner, on veut prier. Parfois, ça va prendre 21 jours. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut faire dans 3 semaines. Hein? On veut se donner, on veut faire un mouvement de prière tout ensemble et embarquer dans ce qu'on appelle Libération 21, un 21 jours de jeûne et prière ensemble en Église. On va vous en parler dans les prochaines semaines. On a besoin de ça ensemble, surtout au début de l'année comme ça. On veut mettre cette année devant le Seigneur et que Dieu puisse faire des grandes délivrances. Quatrièmement, rappelle-toi que Dieu est au contrôle, malgré nos manquements. Et c'est ça qui est magnifique. Tu as beau faire des gaffes, des erreurs, comme Paul et Barnabas. Tu as beau te tromper, mais même connaître des échecs. Dieu, lui, ramasse les échecs. Il va prendre même les faiblesses, nos faiblesses. Et il va faire des grandes avancées dans ta vie. Il va se servir même de tes échecs et de tes faiblesses pour faire progresser l'Évangile dans ta vie. C'est fantastique ce que Dieu fait. Dieu peut faire des belles choses même avec nos erreurs et nos gaffes. Ce n'est pas fini. Voici Paul et Barnabas, grosse chicane. Ils se séparent. Ils choisissent les deux de nouveaux partenaires. Compagnons d'œuvre. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est plate et c'est pas Dieu qui a fait cette chicane-là. Mais là, tu te retrouves avec 2 équipes de missionnaires. Et d'ailleurs, les 2 équipes sont allées à des territoires différents et même Paul est allé dans des territoires tout à fait nouveaux et l'Évangile a entré dans un territoire tout à fait différent. Et Silas, qui était son nouveau partenaire, ajoutait beaucoup à la relation avec Paul. Parce que Silas avait des qualités que Barnabas n'avait pas. Maintenant, Barnabas a apporté beaucoup, évidemment. Mais avec Silas, maintenant, Silas connaissait le grec, c'était un citoyen romain, il avait des forces que Barnabas n'avait pas. Et ensemble, ils ont pu emmener l'Évangile dans un territoire tout à fait différent. Et l'Évangile s'est rendu en Europe et tout ça. C'était glorieux. Et la même chose pour Barnabas. Vois-tu, Dieu va même se servir de nos échecs et nos épreuves et nos faiblesses pour faire quelque chose de glorieux et grand. Je me rappellerai toujours de cette histoire de Philip Brooks que j'ai lue et qui m'a beaucoup touché, Philip Brooks, qui est allé chercher une éducation pour devenir professeur d'école. Hey, c'est un grand gaillard, le gars mesurait 6 pieds 4, 300 livres. Et puis là, il commence comme professeur d'école, mais là, ça va vraiment, vraiment pas bien. Les élèves ne l'aimaient pas pantoute. Il ne réussissait pas, il ne connectait pas avec les jeunes. Ça allait vraiment pas bien. Tellement même qu'à un moment donné, le directeur de l'école l'a mis dehors. Ah, il dit, non, ça ne marche pas ton affaire, tu t'es trompé de voix, mon ami, tu t'es trompé de métier, va chercher autre chose, ça ne marche pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé? La journée qu'il s'est fait mettre dehors, il a écrit dans son journal ce qui suit. Il dit, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Tu es vraiment découragé. J'aimerais avoir 15 ans à nouveau, je pense que j'aurais pu devenir un meilleur homme. Mais d'une façon ou d'une autre, tout indique que je ne ferai pas grand-chose de ma vie. Vraiment découragé, là. Un échec dans sa vie, là. Tu sais, quand tu te sens de même, là. Mais nos échecs, nos faiblesses n'empêchent pas Dieu d'agir et se servir de nous pour bouleverser le monde. Ce qui est arrivé avec Phillips, Brooks, c'est qu'il est devenu un prédicateur. Il est devenu un prédicateur qui était l'un des prédicateurs les plus connus aux États-Unis. C'est même lui qui a fait le discours au décès d'Abraham Lincoln. Il a fait un discours même après la guerre pour l'Université d'Harvard. Et tellement même d'ailleurs que devant l'église Trinity aux États-Unis, il y a même une statue qui est érigée en son honneur, que vous voyez ici sur l'écran. C'est assez... Le gars a eu un impact incroyable à travers tous les États-Unis. Alors, Dieu aurait pu prendre un autre métier et se servir de lui dans ce métier-là. Ça donne que lui est prédicateur. Le point, c'est que Dieu peut prendre nos échecs, nos faiblesses et faire quelque chose de glorieux avec. Amen. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur. C'est jamais fini avec toi. Il y a de l'espoir avec toi. Même dans nos échecs, dans nos faiblesses, Seigneur, on veut vraiment se soumettre à ta direction, même quand on ne comprend pas, on veut t'obéir, on veut marcher avec toi. Oui, en boitant, comme dit Kent Hughes. On va marcher dans notre vie chrétienne en boitant, Seigneur, effectivement, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes humains. Et on sait que le diable, parfois, veut nous ralentir. Mais nous sommes entre bonnes mains. Nous sommes dans tes mains, Seigneur. Et toi, tu peux prendre nos faiblesses, nos failles, nos manquements, et te glorifier à travers ces faiblesses. Comme Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alors, Seigneur, merci de tout cœur. On veut prendre cet engagement-là par ta grâce cette semaine à lutter contre le péché, à régler nos péchés, à les mettre à tes pieds et à être déterminé à suivre ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.